Bien, prenons nos Bibles et regardons ensemble de nouveau dans Ésaïe chapitre 9. Et je veux revenir sur la dernière partie du passage que nous avons vu la dernière fois dans Ésaïe 9 et le verset 6. La dernière fois, on a considéré les attributs du Seigneur Jésus qui sont prophétisés ici dans le verset 5. Un enfant nous est né, ça parle là de son humanité, et un fils nous est donné. Il s'agit là du fait qu'il était depuis toujours le Fils de Dieu. Donc, quoi qu'il est venu dans la chair, c'est un fils qui nous est donné, le Fils de Dieu. Et il est venu dans la chair afin d'accomplir le salut que son Père a ordonné qu'il accomplisse, et c'est ainsi que cela est prophétisé ici dans le verset 5. Et puis nous avons considéré la dernière fois les attributs qui sont mentionnés ici. Il est venu en tant qu'homme, mais il est venu en tant que roi. C'est écrit, et la domination reposera sur son épaule. C'est le Père qui a chargé son Fils du péché de son peuple comme le substitut. Et c'est lui qui a porté le péché sans toutefois lui-même devenir pécheur. Il y a une grande différence d'être le porteur du péché et être le pécheur. Il a porté le péché, la domination du salut reposée sur son épaule. Et cela, il a pu accomplir parce qu'il était en effet Dieu dans la chair. Pas simplement un homme, mais le Dieu-homme. Et c'est pourquoi nous avons considéré la dernière fois les attributs mentionnés. On l'appellera et ses attributs sont donnés en Père. Ça doit être admirable conseiller. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et chacun de ses attributs démontre sa puissance en tant que sauveur. Le mot conseiller ne signifie pas simplement de donner des conseils, mais ça provient d'un mot qui signifie le conseil éternel de Dieu, ce qu'il a décrété. Tout était accompli en Christ. Mais maintenant, dans ce message, je voudrais concentrer sur le verset 6, parce qu'il y a beaucoup ici que nous devons considérer. Et j'ai intitulé cette étude de Christ et son règne. Ici, c'est écrit « Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Auquel bon mot que nous lisons ici concernant l'œuvre que Christ devait venir et accomplir. Une œuvre sans fin, une œuvre sûre, puisque, comme c'est écrit, c'est l'Éternel des armées qui devait accomplir à travers lui son œuvre. Dans mon texte, ici, dans le verset 6, il est question d'un empire accroissant. Et cela représente le royaume que Christ est venu établir. Un empire est une forme d'État composée de territoires et de peuples différents. Voilà le sens du mot empire. Et les prophéties concernant Christ étaient accomplies dans sa venue dans le monde la première fois. Il y en a beaucoup qui attendent toujours un accomplissement futur. Ils disent que non, Christ doit venir établir son empire sur la terre, à Jérusalem de nouveau. Et puisque ça mentionne le trône de David, ils anticipent un royaume terrestre. Mais tel n'est pas le cas. Ce que nous sommes en train de lire ici concerne la première venue. C'est dans le contexte du verset 5, quand c'est écrit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné ». Donc nous devons nous poser la question, pourquoi il est venu la première fois? Et qu'est-ce qu'il a accompli au juste à travers sa vie et sa mort? Il est venu établir un fondement, un royaume, et à travers son œuvre accomplie, attirer maintenant des pécheurs de toute langue, de tout peuple, qui font partie de cet empire spirituel. Nous lisons de cela dans Apocalypse, chapitre 5, et le verset 9. C'est un royaume littéral, mais non pas naturel. C'est un royaume littéral spirituel qui existe aujourd'hui. Et les sujets sont ceux que Christ a rachetés par son sang. Dans Apocalypse 5 et le verset 9, nous voyons cette image de ceux qui chantent autour du trône de Dieu. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Et puis le verset 10, « Tu as fait de quoi? Un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » C'est-à-dire que quoi qu'il y en a qui règnent avec Christ au ciel, étant déjà mort, maintenant il y a ceux qui règnent sur la terre, dans ce royaume, jusqu'à ce qu'il plaît à Dieu de les prendre, ou bien de nous prendre de ce monde. Dans Daniel chapitre 2, dans l'Ancien Testament, dans cette vision que Nebuchadnezzar a eue de la part de Dieu et il a appelé Daniel de donner l'interprétation, le songe qu'il a eu. Et dans son songe, il a vu plusieurs empires qui étaient soulevés. D'abord Babylone, ensuite c'était les Assyriens, le royaume des Mèdes et des Perses, et après eux, c'était les Grecs, et après eux, c'était l'Empire romain. Et c'est au milieu de l'Empire romain qu'il devait avoir un dernier royaume établi. Nous voyons ça dans le verset 34 de Daniel 2. « Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. » La statue de fer et d'argile représentait l'Empire romain. Tout s'est écoulé dans le temps exactement comme ça a été prophétisé. Et cette pierre qui se détachait sans le secours d'aucune main représente la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le monde la première fois. Parce que dans le verset 45, nous lisons dans le même chapitre, Daniel 2, 45, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Notons, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. C'est ainsi que ça a été ordonné qu'il devait avoir ce royaume du Christ, le Fils qui nous est né, l'enfant qui nous est né et le Fils qui nous est donné, rien d'autre que le Seigneur Jésus lui-même. Alors, voilà dans ce passage une explication de ce royaume. C'est écrit ici dans le verset 6 que l'augmentation de ce gouvernement qui était posé sur l'épaule de Christ devait être un royaume, un empire de paix. C'est écrit sans fin. Il faut se poser la question, mais qu'est-ce que Christ est venu faire? Ce n'était pas pour réconcilier tout le monde, mais ce peuple que le Père lui a donné, il est venu établir la paix entre ces pécheurs-là et son Père par sa mort. C'est en versant son sang jusqu'à la mort que cette paix a été établie. Donc, il ne faut pas imaginer là une paix dans le sens où il n'y a pas de guerre ou d'opposition. Dans le royaume de Christ, aujourd'hui, est établi dans le monde. Mais la paix dont ça mentionne ici, qui est sans fin, c'est cette paix que Christ lui-même a établie entre les pécheurs pour qu'il a racheté et le Père. Dans Romains chapitre 5, nous lisons cela, écrit par l'apôtre Paul. Dans Romains 5, c'est écrit le verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, « étant donc justifiés », cela était établi dans sa mort. Nous voyons ça surtout dans Romains 4 et le verset 25, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour, le mot pour là signifie à cause de notre justification. Quand est-ce que la justification des pécheurs a eu lieu? C'est à la croix. Quand Christ est mort, tout était fini. Alors, en ce qui concerne ce qui était nécessaire pour que Dieu soit juste, de justifier son peuple, et la paix qui a été établie, et cette paix entre ces pécheurs pour qui Christ est mort et son Père. Si effectivement Christ était mort pour tous les êtres du monde, donc il ne devait plus avoir de condamnation. Mais cette paix, c'est comme cet empire que nous lisons ici dans le verset 6, représente ce peuple qui a été donné à Christ comme représentant et ainsi leur salut, leur paix est en lui. Donc, l'augmentation de son gouvernement, l'accroissement de cet empire, ça parle du fait que maintenant, dans le monde, à travers l'Évangile, Dieu continue à appeler à Christ, faire entrer dans ce royaume, chacun pour qui Christ est mort. C'est pourquoi nous sortons pour prêcher l'Évangile. Ce n'est pas pour convaincre tout le monde, non. Mais nous cherchons les brebis du Seigneur, ceux qui vont entendre sa voix lorsque son esprit les appelle à travers l'Évangile. Et ils se soumettent à Christ comme Sauveur et Seigneur. Pas seulement comme Sauveur, mais Sauveur et Seigneur. C'est ainsi que son royaume s'accroisse. Et notons, c'est écrit, « Et une paix sans fin au trône de David et son royaume. » Sans fin. Il y en a qui pensent que cela s'agit d'un royaume terrestre qui va durer pendant 1000 ans, mais ici, c'est écrit sans fin. Donc, c'est évident que cela ne peut pas s'appliquer à un royaume terrestre, mais plutôt spirituel. Quand c'est écrit un trône de David et à son royaume, il s'agit là d'une promesse que Dieu a faite à David de susciter une postérité qui s'assiera sur son trône. Si vous regardez dans 2 Samuel, le chapitre 7, lorsque David était encore vivant, et c'est ainsi que nous lisons dans les versets 10 à 13, ce que le Seigneur avait promis à David, de Samuel, le chapitre 7, commençant dans le verset 10, il dit, « J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants l'oppriment, ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il t'a créé une maison. » Mais maintenant, dans le verset 12, « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, notons, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui en sortira de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai notons pour toujours le trône de son royaume. » Dans le contexte historique, cela s'est réalisé certainement par son fils Salomon, mais il faut dire que le véritable accomplissement a eu lieu avec l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, qui était de la postérité de David. Et il est sorti de la tribu de Judas. Et si on se pose, mais est-ce que Christ règne effectivement aujourd'hui sur le trône de David? La réponse est sans contestation, oui, il règne. Si vous voyez dans Actes chapitre 2 avec moi, Actes chapitre 2, et le verset 25 à 36, voilà le message que Pierre avait annoncé le jour de Pentecôte, quand Dieu a fait venir son esprit sur ceux qui étaient rassemblés là à Jérusalem le jour de Pentecôte. Et ici, dans Actes chapitre 2, c'est clair comment Pierre lui-même a pris les passages de l'Ancien Testament pour les interpréter. Dans le verset 24, si on remonte jusqu'au verset 23, « Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. » Il est en train de citer un passage qui est tiré du psaume 16, là, le verset 8. Vous voyez comment nous interprétons les Écritures. C'est le nouveau qui est dans l'ancien caché et l'ancien est dans le nouveau révélé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, verset 26, et même ma chair reposera avec espérance. Tout cela parle de ce que Christ a accompli. Et comment alors le Père l'avait honoré puisqu'il avait tout accompli. dans sa vie et sa mort. Il disait, verset 27, tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Encore un passage accompli en Christ, verset 28, tu m'avais fait connaître les sentiers de la voie, et tu me rempliras de joie par ta présence. Bien sûr, David a écrit ces paroles comme étant son espérance, mais l'accomplissement était en effet en Christ qui avait sa joie dans la présence de son Père, ayant accompli ce pourquoi le Père l'avait envoyé dans le monde, et maintenant il est monté au ciel et il est assis à la droite du trône de son Père. Mais maintenant, voilà le point clé ici dans cette interprétation, et en posant la question, est-ce que maintenant Christ est assis sur le trône de David? Et la réponse est oui, verset 29. « Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet de la patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. » Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, notons bien, soulignons le verset 31, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Alors, en réponse à la question, à quel temps est-ce que Dieu a fait asseoir son Fils sur le trône de David, comme ça a été annoncé? C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé. Point final. Nous ne devons pas anticiper désormais un retour du Seigneur Jésus à Jérusalem pour aller s'asseoir sur un trône physique, comme beaucoup aujourd'hui annoncent, prétendant qu'il devait avoir un règne millénaire encore à venir, un règne de 1000 ans. Je sais qu'il tire cet enseignement d'un passage dans le livre d'Apocalypse et le chapitre 20. Et je voudrais simplement voir ce que Apocalypse 20 enseigne. Lorsque dans chapitre 20, le verset 1, c'est écrit, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. » Il faut savoir que le livre d'Apocalypse est écrit avec, dans un sens figuré, spirituel. Il ne faut pas envisager ici une clé actuelle, physique, ou bien une chaîne physique pour saisir Satan et maintenant de le retenir. Quand c'est écrit verset 2, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il n'est pas lié avec une chaîne physique. Ce sont des termes spirituels ici, au sens figuré. Et ça parle du fait que depuis la croix du Seigneur Jésus-Christ, Satan maintenant n'a plus la liberté de retenir qui que ce soit. C'est pourquoi Christ a dit, je bâtirai mon église et les portails de l'enfer ne pouvaient pas l'empêcher. Christ aura chacun pour qui il est mort. Mais le mot 1000 ans, vous voyez, c'est au pluriel. Une autre manière de lire cela, c'est de pouvoir dire des milliers d'années. Et le terme mille s'agit d'un nombre, c'est un chiffre qui est indéfini. C'est comme parfois nous disons à quelqu'un, mais je t'ai dit mille fois, ne pas faire cela ou dire cela, mille fois. On ne pense pas ça dans un sens littéral, mais pour comprendre que Satan, maintenant, à cause de l'œuvre de Christ, est lié, c'est Dieu lui-même qui le retient pour l'empêcher de faire tout ce qu'il désire. Et c'est écrit, verset 3, il le jeta dans l'abîme, fermant et cela l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à, notons, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis, ou bien les milliers d'années fussent accomplis. Après cela, c'est écrit, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. C'est de ça que l'apôtre Paul a écrit que vers la fin de ce monde, la fin de ces temps, c'est Dieu qui relâchera Satan pour aller séduire de nouveau les nations et qu'il le fera par la fausse religion. C'est ainsi que Satan œuvre dans le monde à travers la fausse religion. Mais il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Il est lié, même avec tout ce qui est autour de nous. Maintenant, avec la fausse religion, on peut peut-être imaginer que la fin des temps est proche. On ne sait pas. Tout ce que nous savons, c'est que c'est Dieu qui retient Satan et l'empêche de faire ce qu'il veut faire. Et cela pendant encore 1000 ans ou des milliers d'années. Mais notons, verset 4, « Je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. » La bête et son image représentent la fausse religion. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Au premier siècle, ceux qui étaient persécutés par l'Empire romain étaient persécutés jusqu'à la mort, mais ils ont refusé, quand ça parle d'une marque sur le front et sur leurs mains, il ne s'agit pas là d'une marque physique. Mais ça parle de ceux qui ont refusé dans leur pensée et par leurs œuvres, leurs mains, de contribuer à la fausse religion. Et ils revinrent à la vie. Comment est-ce qu'ils sont revenus à la vie? Bien sûr, ils étaient tués, ils étaient des martyrs à cause du témoignage de Jésus-Christ, même décapités. Tout cela s'est passé au premier siècle, mais sont revenus à la vie. Comment? Même s'ils ont pu tuer le corps, leur âme continue à vivre auprès du Seigneur. Et c'est écrit, ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans, ou bien des milliers d'années. Il y en a qui règnent maintenant, qui sont morts pour le témoignage de Christ, auprès de Christ. Et il règne parce qu'il règne. Voilà le point que je voudrais souligner. Si Christ ne régnait pas maintenant, on ne pouvait pas lire là qu'il règne alors avec lui. Mais il faut dire que nous régnons aussi. Quoique nous ne sommes pas encore au ciel, mais notre Seigneur est assis sur le trône et le gouvernement est sur ses épaules, et il règne, et puisqu'il règne, nous régnons avec lui. Regardons dans Éphésiens, chapitre 1, et le verset 19 à 23. C'est écrit dans Éphésiens 1, 19, « Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance ?» se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Notons verset 21, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est-à-dire qu'il règne, et depuis qu'il est monté au ciel, il est assis sur le trône de David, comme nous avons vu dans Acte 2, et il règne non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Voilà le règne de Christ, voilà l'empire de Christ que nous sommes en train de lire ici dans Ésaïe chapitre 9 et le verset 6. Un empire qui doit continuer à croître et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Et qui est en train d'affermir tout cela? C'est écrit, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Christ est venu pour accomplir la justice de Dieu, puisque ceux qu'il est venu sauver étaient des pécheurs. Donc c'était nécessaire que par sa vie, il établisse cette justice qui devait satisfaire la justice de son Père et aussi payer la peine pour le péché de son peuple. C'était la mort. Donc, quand c'est écrit « affermir et le soutenir par le droit et par la justice », notons, dès maintenant et à toujours, depuis la croix, cette justice a été établie et c'est Christ maintenant assis au ciel sur le trône qui intercède pour assurer que tous ceux pour qui il est mort soient effectivement appelés à lui. C'est ce trône de Christ est affermi par le droit et par la justice. Lorsque Dieu sauve des pécheurs, c'est selon ce droit et sa justice. Et lorsque Dieu condamne des pécheurs, puisque Christ règne non seulement pour le salut des pécheurs, mais aussi pour la condamnation des pécheurs, donc tout cela, c'est selon le droit et selon la justice. C'est pas selon les droits humain, parce que nous savons que le droit des hommes est perverti, mais selon le droit et la justice. Et c'est pourquoi, si nous revenons encore dans Acte 2, à la fin du message de l'apôtre Pierre, nous avons cette assurance dans Acte chapitre 2, et il commence dans le verset 30 et 31, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévu et a annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Mais maintenant, le verset 33. Élevé par la droite de Dieu. Qu'est-ce que la droite de Dieu représente? Ça représente la place d'honneur. Et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Bien sûr, ceux qui étaient là ce jour-là ont parler en langue, langue qui représente de véritables langues. Nous savons, ce n'était pas des mots bizarres, comme on entend dire aujourd'hui. Verset 8 de chapitre 2 dit, « Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ?» C'était des Juifs qui étaient dispersés dans les différents pays, qui comprenaient bien les langues de ces pays-là, mais maintenant, arrivés à Jérusalem, voilà les apôtres qui n'avaient jamais voyagé au-delà d'Israël, mais qui parlaient et annonçaient la gloire de Christ dans les langues de ces pays-là. Parthes, verset 9, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, et le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Les apôtres annonçaient dans ces langues-là d'une manière parfaite l'Évangile, et ceux-là entendaient. Et donc c'est de ça que Pierre, maintenant, au lieu de dire aux gens, oui, mais c'est comme ça que vous pouvez aussi parler en langue. Non, son sujet n'était pas les langues. Les langues étaient le moyen que Dieu avait utilisé pour communiquer ce message de Christ. Mais quel était le message? C'est verset 33 qui nous le dit. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez. Et l'entendez, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Et notons le point clé, verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Voilà ce qui a été annoncé alors dans Ésaïe chapitre 9. Voilà l'empire qui continue à s'accroître. Voilà ce royaume que Dieu lui-même a fermé et soutient maintenant à cause de l'œuvre de Christ. Et tout cela s'est accompli comme c'est écrit à la fin du verset 6. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est le Seigneur lui-même qui a fait que cela s'est accompli. Alors le trône de David, c'est le trône de Christ. Le trône de David est le trône de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 3 et le verset 21, encore, rappelons-nous que le livre d'Apocalypse concerne la révélation de Christ. Voilà ce qui est écrit depuis le premier verset, révélation de Jésus-Christ. Donc tout ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse, ça ne concerne pas les temps, les saisons, comme les gens prétendent, mais Christ, où est-ce qu'il est maintenant? Il est au ciel, il est assis sur son trône, et tout ce qui se passe sur cette terre, bien comme mal, vient de son trône. Et dans Apocalypse 3 et le verset 21, c'est écrit, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. » C'est quel trône? C'est son trône. Et qui sont ceux qui règnent avec lui? Sont ceux pour qui il a vaincu et donc il vainque. Et ce n'est pas selon notre propre puissance que nous vainquons ce monde, mais nous vainquons parce qu'il a vaincu. Et comme c'est ce qu'il a dit, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc voilà le Seigneur Jésus, le merveilleux conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel. Pourquoi il est appelé Père éternel? Parce que Dieu lui a donné des enfants. Et il est appelé aussi le prince de la paix, pour ceux que le Père a choisis, et pour qui il a donné sa vie afin de les racheter et les appeler comme sujets de son empire accroissant. Il vit et il règne maintenant pour assurer que chacun que le Père lui a donné soit avec lui pour l'éternité. Un dernier verset, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 25. Voilà tout ce qui est prophétisé dans l'Ancien Testament et révélé dans le Nouveau comme accompli en Christ. Voilà la manière que nous devons prêcher la Bible. Ce n'est pas que nous mettons de côté l'Ancien Testament pour dire, ouais, non, c'est passé. Non. Nous retournons, nous lisons, c'est la parole de Dieu, pour voir comment ce qui était prophétisé est maintenant accompli dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ici, dans 1 Corinthiens chapitre 15, où Paul parle de la résurrection des morts, mais il dit ici, dans le verset 25, car il faut qu'il règne. Et notons, c'est mis au temps présent, jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. C'est-à-dire, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Tout était mis sous les pieds du Christ, mais dans l'ordre que nous voyons dans la divinité, toujours le Fils est soumis au Père. Et c'est dans cette harmonie que nous avons l'assurance du salut en Christ. Que le Seigneur bénisse la parole que nous venons d'entendre et qu'il nous donne une véritable paix lorsque nous voyons comment Christ est venu accomplir tout ce qui a été prédit de lui et qu'il règne maintenant. Amen.